Bien, bonjour. Donc je vais faire une présentation sur le vitrage, sur le verre en général. L'intitulé du sable au vitrage intelligent. J'ai mis intelligent ici entre guillemets parce que c'est une mauvaise traduction de l'anglais smart glazing. J'expliquerai à la fin de l'exposé ce que ça veut dire, parce qu'on entend par là. Pas vraiment intelligent au sens propre du terme, mais il y a un petit côté smart. Voilà. Donc en préambule. Le verre tel qu'on l'utilise, le mot verre tel qu'on l'utilise au sens commun, couvre en fait une réalité qui est très très complexe et je vais réussir aujourd'hui probablement à vous en montrer qu'une partie. J'ai réalisé, suite à la demande de Jean-Marie sur sa présentation large du sable au vitrage, que c'est impossible pratiquement de tout résumer en une heure. Donc je vais essayer simplement d'illustrer des exemples de verre et je vais me limiter au verre d'oxyde et principalement au silicate. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de structurer la présentation en trois parties. L'une que j'ai intitulée un peu d'histoire, qui est de reprendre dans l'histoire, je ne suis pas un historien du verre, mais qui est de reprendre dans l'histoire du verre, qui est largement documentée, quelques éléments, quelques étapes qui me semblent importantes, et illustrer avec ces étapes des notions ou des caractéristiques importantes qui perdurent et qui sont encore vraies pour les verres d'aujourd'hui, en tout cas les verres d'oxyde. Après, je vous montrerai avec des exemples la diversité des verres d'oxyde, tels qu'on les connaît. Et puis enfin, je terminerai par des vitrages que j'ai pu appeler intelligents dans ce cas-là, des vitrages fonctionnels via les surfaces, dans la continuité de ce qu'a présenté Jean-Marie précédemment. Alors, un peu d'histoire. Tout d'abord, on commence avec l'obsidienne, qui est un verre naturel, issu des volcans, qui est utilisé au temps d'après-histoire pour fabriquer des outils. Donc là, la nature, finalement, fournit tout ce qui est nécessaire pour fabriquer un verre, les matières premières, l'énergie, le four en quelque sorte, les quelques matériaux réfractaires qui permettent de confiner la fusion du verre dans ce cas-là, et la technologie, qui est la technologie naturelle issue du noyau terrestre. Voilà. Donc le point important, peut-être, même si ce n'est pas une démonstration avec cet exemple-là, et ce qu'on doit retenir avec cette image-là, c'est que la vitesse de refroidissement va être importante pour pouvoir fabriquer un verre. Et c'est ce magma en fusion qui se refroidit rapidement qui conduit à ce verre naturel qui a été utilisé au temps de la préhistoire. Alors, on mentionne toujours cette légende de Pline l'Ancien qui raconte que des marins phéniciens ont fait un feu sur une plage de sable et comme ils n'avaient pas de pierre pour caler leur feu, ils ont utilisé ce qu'on appelle le natron, qui est un carbonate de sodium qui était utilisé pour... ici, c'est écrit pour les détergents. En fait, j'ai lu aussi qu'il était utilisé pour la mumification par les Égyptiens. Bref, c'est un carbonate de sodium. Et ce dont ils se sont rendus compte, d'après cette légende, à l'issue de quand le verre se refroidit, c'est qu'il y a des matériaux, comme c'est ici, brillants et cassants, qui avaient été formés par le refroidissement. Alors, c'est clairement une légende, dans le sens où c'est pratiquement impossible, de notre connaissance aujourd'hui, avec un feu ouvert comme ça, de produire les températures qui sont nécessaires pour fabriquer un verre. Ce que ça traduit simplement, c'est que cette connaissance du verre, de la fabrication du verre, était bien ancienne, et que Pline a construit cette légende, soit de tradition orale, soit de lui-même. Le point important à retenir, je crois, de cette légende, qui est largement documentée, c'est qu'il y avait depuis très longtemps une compréhension du rôle de ce qu'on appelle le fondant, c'est-à-dire que le sable, la silice, toute seule à une température de fusion très élevée. Et il faut un fondant pour aider la silice à fondre et à former ce qu'on va appeler le verre par la suite. Alors, en fait, on date les premières fabrications par l'homme du verre, à peu près 5000, aux années 5000 avant Jésus-Christ, par les Égyptiens. On a des objets qui sont... Voilà. Les objets qui sont ici, vous avez les dimensions de quelques centimètres, qui sont essentiellement des perles utilisées pour la bijouterie. Et on a aussi des récipients de cette forme-là. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ces récipients étaient formés par un noyau, on va l'appeler réfractaire, d'argile et de sable. Et les Égyptiens trempaient, soit travaillaient le verre autour de ce noyau, soit le trempaient dans un verre en fusion, et ressortait le noyau donc de réfractaire avec son verre, attendait que le verre refroidisse, et venait ensuite gratter l'intérieur du récipient, de ce qui sera le récipient, venait ensuite gratter l'intérieur de ce qui sera le récipient pour enlever le réfractaire et fabriquer de cette façon-là un récipient. Ce qu'on peut retenir de cet exemple-là, c'est qu'il y a depuis donc des millénaires un travail à chaud du verre qu'on retrouve aujourd'hui quand on va à Murano, par exemple, voir les artisans verriers travailler le verre dans différentes conditions, qui est vraiment un savoir-faire et qui perdure aujourd'hui dans la fabrication des verres modernes. Alors, peu avant, 300 années avant Jésus-Christ, on a découvert le soufflage du verre, et donc, qui était une façon de construire des récipients, non plus avec un noyau réfractaire, mais en soufflant au travers d'une canne, donc pour rester à distance du verre, et souffler à travers une canne métallique, de façon à faire gonfler la poche de verre et à fabriquer un récipient de cette façon. Donc c'est la technique du soufflage qui, si on regarde un peu l'analyse historique, va de pair avec une certaine maîtrise des procédés métallurgiques, puisqu'il fallait pouvoir construire cette canne et maîtriser évidemment certaines formes et certaines formes de contact du verre avec le métal. Alors il y a deux sortes de soufflage, soufflage direct, où là, ce qu'on voit encore dans certains sites qui reproduisent le soufflage traditionnel, ou bien le soufflage dans un moule directement, de façon à donner la forme définitive au verre refroidi. Voilà, et donc il y a à cette époque une industrie verrière qui a été amorcée à Rome et en Italie plus généralement pour construire des objets, dont vous voyez ici des exemples, qui ne sont pas parfaits, mais qui sont des récipients en verre construits de cette façon, fabriqués de cette façon. Alors, une étape importante dans l'utilisation du verre est l'utilisation du verre pour les fenêtres, telles qu'on l'utilise aujourd'hui. Donc, on voit les premières apparitions de ces vitrages à Rome, en tout cas dans les civilisations romaines, et les échantillons, enfin les verres que vous voyez ici, ont été trouvés sur le site de Pompéi. Donc, ont survécu aux dévastations de Pompéi, et été utilisés. Bien sûr, ils ne sont pas des vitrages parfaits, donc ils ne sont pas transparents au sens propre du terme, mais ils sont translucides et étaient utilisés déjà comme des fenêtres dans des villas luxueuses ou dans des palais. Alors, cette fabrication est nouvelle par rapport au récipient en verre que vous avez vu tout à l'heure. Et en fait, c'était un procédé qui a été inventé à cette époque-là de couler sur lit de sable. C'est-à-dire qu'on préparait le verre et on venait le couler sur un lit de sable qui jouait le rôle de réfractaire, et on laissait refroidir le verre pour fabriquer ces petits vitrages, dont la qualité, évidemment, n'était pas exceptionnelle, puisqu'il y avait le lit de sable qui avait une certaine granulométrie, une certaine rugosité, mais qui était la façon, à l'époque, de construire ces vitrages. On va les appeler comme ça. Donc, fabrication du verre plat par coulée sur un lit de sable, vous allez voir que cette fabrication par coulée a évolué et a graduellement conduit au procédé actuel de fabrication des vitrages. Alors maintenant, on saute un peu dans l'histoire, on passe au Moyen-Âge avec l'invention de ce qu'on appelle les procédés en plateau. Donc, après la chute de la civilisation romaine, la compétence verrière, on va dire, s'est un peu diffusée en Europe, mais sans qu'il y ait de traces vraiment marquantes de l'activité industrielle sur le verre. Par contre, on la retrouve effectivement à l'époque du Moyen-Âge par ce procédé qu'on appelle le procédé de fabrication en couronne. Alors, le principe est relativement simple, c'est qu'on crée une boule de verre creuse, donc de la même façon que vous avez vu tout à l'heure avec le soufflage, et on fait tourner très rapidement, relativement rapidement, cette sphère de verre de façon à l'aplatir. Donc on peut imaginer qu'on va avoir, va appeler une couronne, c'est-à-dire un récipient en verre, mais aplati sur une dimension due à la force centrifuge de la rotation de l'axe. Et donc, on va laisser refroidir ensuite le verre sous cette forme. On va bien sûr le casser et récupérer le fond, le fond du plateau, qu'on appelle la couronne. Et c'est ça qui va servir de verre plat. Et en fait, vous avez un bon exemple de ce genre de verre fabriqué par le procédé en plateau sur des vitrages anciens dans des maisons qui sont pas forcément du Moyen-Âge, mais qui sont de fabrication ancienne, où on voit cette symétrie circulaire, donc c'est les variations d'épaisseur avec une symétrie circulaire sur le verre qui reflète ce procédé de fabrication en plateau. Voilà, donc c'est une première industrialisation du verre, dans le sens où ce procédé a permis d'aller beaucoup plus vite que ce qui se faisait sur la coulée avec la coulée sur le lit de sable. Voilà, donc je vais peut-être passer rapidement sur ces exemples. Donc il y a effectivement l'exemple, par exemple, pour la cathédrale de Chartres, on utilise ces verres en plateau. Le point le plus important ici sur cette étape-là, c'est la fabrication du verre avec des manchons de verre ou des cylindres. Alors vous voyez une représentation ici de ce manchon, voilà, qui est obtenu en fait en soufflant le verre, puis après en le basculant. Donc c'est un geste assez, là aussi c'est du savoir-faire. Donc on a la canne dans laquelle on a soufflé le verre, donc avec une sphère de verre, une sphère creuse de verre au bout de la canne, et on vient balancer cette sphère de verre pour l'allonger et fabriquer ce qui est ici le manchon. Et ensuite, une fois que ce manchon est refroidi, on le découpe sur une génératrice du cylindre, et puis on vient réchauffer le verre pour l'aplatir. Donc c'est des étapes importantes, fabrication du manchon, découpe du manchon, donc on l'ouvre sur une génératrice, et après en réchauffant, en retravaillant le verre, il redevient souple, on va dire, et il peut être aplati sur une table, par exemple, pour former un verre plat. Et donc vous comprenez qu'avec ce procédé, on obtient des verres qui ont une dimension beaucoup plus importante, qui est en gros la longueur du manchon et le diamètre du manchon dans l'autre direction. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est. C'est un procédé qui est important et qui a été utilisé par la suite et même industrialisé, comme vous allez le voir, avant l'invention des procédés modernes. Du 12e au 18e siècle, il y a un second âge d'or du verre en Italie, et à Venise en particulier, où là, il y a toute l'industrie qui va se développer, et en particulier, c'est ça que j'ai voulu souligner ici, une purification des matières premières. C'est-à-dire que vous avez vu que les verres jusqu'à maintenant étaient quand même de qualité optique assez médiocre, et donc il y a tout un travail pendant des siècles sur les matières premières pour les purifier et avoir des matériaux qui vont conduire à des objets en verre, qui sont des objets de luxe, qui sont de qualité optique relativement impressionnante pour les procédés de l'époque. Oups. Alors, à peu près à la même époque, il y a d'autres verriers, en particulier les verriers de Bohème, ce qui est relativement bien connu de nos jours, qui ont aussi travaillé le verre, mais là avec des compositions différentes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément cherché la clarté ou la légèreté du verre. Ils ont plutôt cherché des produits qu'on connaît, des produits de verre de Bohème, des produits plutôt massifs, ce qu'ils ont obtenu avec des compositions différentes. Et ce qui est important à souligner là, c'est que c'était un peu le premier travail réel sur la composition des verres, avec, comme c'est souligné ici, des matières premières qui vont être un peu différentes, ou des fois beaucoup différentes, de celles utilisées par les Vénitiens, en particulier la chaux, l'utilisation de la chaux de façon plus importante que les verriers vénitiens. Voilà, donc l'histoire du verre donc, jusqu'à cette époque. Un tournant important, et en particulier en France, la manufacture royale des glaces créée par Louis XIV, qui a été à l'origine, comme vous le savez, du groupe Saint-Gobain tel qu'il existe aujourd'hui. Et donc l'origine de la création de cette manufacture royale des glaces, c'est, comme vous le savez probablement, l'intérêt fort pour les miroirs. Les miroirs étaient fabriqués en Italie, à Venise, où il y avait un grand savoir-faire pour la fabrication de ces miroirs, à la fois une fabrication, je dirais, de quasi-industrielle, enfin en tout cas importante, et évidemment un rayonnement commercial partout dans le monde. Ce qui faisait que le coût des miroirs qui étaient achetés par les autres pays, en particulier en France, était important et devenait prohibitif. Donc Louis XIV, avec Colbert, a décidé de démarrer cette manufacture royale des glaces à partir en faisant venir des verriers italiens de Murano. Et comme vous le savez sûrement, c'est ce qui est à l'origine de la première vraie réalisation par des fabricants de miroirs français de la Galerie des Glaces au Palais de Versailles. Voilà. À peu près à la même époque, la fabrication du verre, donc, qui était jusqu'à maintenant faite à partir de manchons, comme je vous l'ai montré, en fait, une invention importante a été réalisée, qui est l'invention de la coulée sur table. Donc, on le voit relativement bien ici. Le verre, ici, est versé sur une table métallique. Puis ensuite, il y a un rouleau qui est ici, qui est déplacé au travers du verre et qui va venir aplatir le verre sur la table métallique. Et après, on va laisser le verre refroidir. On va pouvoir fabriquer ainsi des verres plats de plus grande dimension que ce qu'on obtenait jusqu'à maintenant avec les manchons, et donc d'avoir des grands miroirs et de montrer son savoir-faire sur la fabrication de ces miroirs. Excusez-moi. Bon, maintenant, dernière slide sur l'aspect un peu historique de la fabrication du verre, qui sont des optimisations et la mécanisation qui va s'amorcer à partir du 19e siècle sur la fabrication du verre. Donc, la première optimisation, c'est l'utilisation des fondants. Il y a eu un travail qui est fait par des chimistes pour trouver de trouver du carbonate de sodium, par exemple, qui soit artificiel, donc qui soit issu de la chimie, avec les procédés Leblanc, les procédés Solvay au XIXe siècle, qui sont encore utilisés de nos jours pour avoir une source de sodium. L'utilisation également de sulfate de sodium pour avoir un mélange optimisé d'optimiser c'est un premier travail sur la définition des matières premières ou l'optimisation des matières premières pour la fabrication du verre. Il y a aussi un travail sur la combustion, sur les fours verriers. L'exemple que j'ai choisi ici, ce sont les procédés Siemens. L'idée est simple, c'est que pour avoir une meilleure utilisation du charbon, l'idéal serait d'avoir d'apporter plus d'air pour la combustion. Le problème, c'est que si on apporte de l'air froid, la combustion est ralentie et finalement on baisse la température du four. Et donc l'idée a été d'utiliser des récupérateurs, c'est-à-dire qu'avant d'injecter l'air pour optimiser la combustion, on réchauffe cet air grâce aux fumées du four. Il y a un système d'échange entre les fumées du four et l'air qu'on injecte pour la combustion. Voilà. La mécanisation, donc ça a commencé avec le verre creux, donc fabrication des récipients ou des bouteilles. La première étape a été une étape semi-automatique, c'est-à-dire que le soufflage du verre, donc de la sphère de verre, était fait par une machine, ou devait être fait à la bouche, traditionnellement. Pour avoir une automatisation automatique, la difficulté était de pouvoir cueillir, ce qu'on appelle cueillir dans le langage verrier, une sphère de verre, ce qu'on appelle une paraison, avant de l'injecter dans la machine de soufflage. Et donc ce problème a été résolu avec ce qu'on appelle un feeder, c'est-à-dire qu'on a un canal dans lequel le verre en fusion relativement chaud est refroidi pour arriver à la bonne viscosité de façon à être cueilli par une machine et de pouvoir être soufflé ensuite à la forme voulue. Et puis, dernière étape de mécanisation, la fabrication du verre à vide, donc à travers les manchons ici. Donc, sans décrire le détail de la machine, vous pouvez voir ici la longueur du manchon, qui est très importante et qui permet d'obtenir des vitres de grande dimension. Un autre procédé a été développé à l'époque, qui est l'étirage du verre, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, le verre en fusion était ici, et on venait tirer, avec des systèmes d'entraînement et de convoyage, on venait tirer le verre qui se refroidit graduellement. Donc le procédé le plus connu, en tout cas en Europe, c'est le procédé Fourcault, qui n'est plus vraiment utilisé aujourd'hui, mais qui a été une étape importante pour fabriquer du verre plat de grande dimension. Oups. Voilà, et j'en viens au procédé d'aujourd'hui, donc on appelle le procédé float ou du verre flotté, qui consiste à faire venir du verre en fusion directement sur un bain d'étain. Donc l'idée, dans les années 60, a été développée par Pilkington, donc fabricant verrier anglais. Et donc les challenges importants qu'il a fallu surmonter sont de trois ordres, en gros. Le premier, c'est qu'il y a le bain d'étain qui doit rester immobile, qui doit rester pour éviter les convections, mais sur lequel le verre va venir s'écouler et se déplacer. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le verre est versé sur le bain d'étain, mais ensuite, il est convoyé, d'une certaine façon, jusqu'à ce qu'on appelle les caries, c'est la sortie du verre froid. Et donc, le long de ce four, ici, la température du verre est graduellement de plus en plus faible pour arriver à une solidification à la sortie de ce bain flotte. Donc ça, c'était l'un des premiers challenges. L'autre, bien sûr, c'était contrôler l'atmosphère de l'enceinte, du four, puisque l'étain ne doit pas s'oxyder, et éviter une contamination du verre. Et le dernier challenge, qui n'est pas le moindre, c'est d'étirer le verre, parce que l'épaisseur d'équilibre du verre sur un bain d'étain est de l'ordre, bon, ça dépend un peu des conditions, mais de l'ordre de 6 mm, voire 10 mm dans certains cas. Et donc, il faut arriver à étirer le verre de façon à avoir, en sortie du four, un verre de quelques millimètres, 2, 3, 4 mm d'épaisseur. Et donc, ça, c'est fait avec des rouleaux qu'on voit ici, ce sont les rouleaux ici, qui vont s'accrocher sur le verre et venir l'étirer graduellement vers l'extérieur. Donc, on a une espèce de langue qui s'élargit dans le four pour donner à la sortie l'épaisseur finale et la dimension finale du verre. Voilà, j'en ai fini avec la partie historique. Encore une fois, l'idée, c'était de vous montrer un peu les notions importantes ou les points importants par rapport au verre. Ce qu'on peut dire au fil de l'histoire, c'est qu'il y a eu vraiment une amélioration en continu des caractéristiques premières du verre, donc sa transparence, sa couleur, l'utilisation du verre comme substrat pour les miroirs, et que ce qui est important pour arriver à ce qu'on va connaître aujourd'hui, c'est-à-dire la qualité optique, les formes complexes et les grandes dimensions, c'est bien sûr les projets de formage, mais aussi le travail du verre. C'est-à-dire que l'idée que le verre, dans certaines zones domaines de température, va pouvoir être travaillé et déformé pour arriver à des formes plus ou moins complexes. Voilà, donc maintenant, dans la deuxième partie, je vais essayer de vous montrer la diversité des verres d'oxyde, encore une fois en se limitant au silicate, à travers quelques exemples. C'est difficile d'être exhaustif, c'est même carrément impossible. Et au préalable, je vais juste vous rappeler quelques notions, comment on décrit les verres aujourd'hui, d'un point de vue physico-chimique, on va dire, de façon à introduire le vocabulaire nécessaire pour la suite de l'exposé, mais aussi pour vous, pour le futur, pour comprendre un peu si vous lisez la littérature sur le verre. Alors, la transition vitreuse, donc il y a beaucoup de littérature sur la transition vitreuse. J'ai essayé de simplifier les choses avec l'exemple qu'on prend traditionnellement d'un liquide qu'on refroidit. Et comme vous le savez, si c'est un liquide monophasique, il va y avoir à un moment donné, en température, une cristallisation, donc une transition de phase entre un état liquide et un état solide. Pour certaines compositions, et ça va être pour l'exposé les compositions verrières, on a, en refroidissant, suivant les vitesses de refroidissement, une surfusion. J'ai oublié de dire, donc là on regarde le volume, mais ça peut être n'importe quelle autre grandeur thermodynamique. Donc les grandeurs thermodynamiques pour la cristallisation vont avoir une transition de phase ici. Pour un verre, on va avoir une surfusion et à un certain moment, une rupture de pente dans la variation en température des grandeurs thermodynamiques. Et on va avoir, in fine, à basse température, un état qu'on appelle l'état vitreux, qui est un état métastable et amorphe. Voilà. Donc on définit, là, c'est la première définition de la transition vitreuse par le point d'inflexion qui est ici, sur une grandeur thermodynamique qui est choisie, mais en général, qu'on dit toujours la même définition du TG. Alors, une représentation très simple de cet état vitreux. Là, c'est une représentation à deux dimensions du quartz, donc bien sûr, c'est très simpliste. Ce qui est important de noter, c'est bien sûr le passage d'un ordre à un désordre, dans le cas du silice, du quartz à la silice, mais aussi la conservation du tétraèdre silicate. C'est-à-dire que localement, on a bien l'ordre autour du silicate autour du silicium, mais on a à grande échelle un désordre structural dans l'état amorphe. Alors en fait, la transmission vitreuse est plus complexe que ce que j'ai pu décrire jusqu'à maintenant. En fait, suivant les vitesses de refroidissement, la définition de ce point d'inflexion varie dans un certain domaine. Donc on ne parle pas vraiment de transition vitreuse, d'ailleurs ce n'est pas une transition de phase, mais on parle de domaine de transition vitreuse qui va pouvoir être contrôlé avec la vitesse de refroidissement. Donc c'est ce qui est illustré ici avec des vitesses plus ou moins rapides qui vont définir des TG à différents points. Voilà, alors une remarque que je veux faire par rapport à ça, c'est que c'est la description traditionnelle de la transition vitreuse. Donc là, j'ai donné quelques éléments. En fait, il y a d'autres verres qui sont obtenus de nos jours autrement que par des procédés de fusion. C'est le cas des sol-gel, c'est le cas des procédés de type CVD. Il y a même des productions naturelles de silice par des micro-organismes comme les éponges, par des voies complètement basse température. Donc il faut bien sûr adapter ces notions à la production de verre par des voies autres que la fusion. Alors, dans le langage verrier, la tradition s'est établie et largement répandue de repérer les caractéristiques du verre par leur viscosité, à travers leur viscosité. Donc, on utilise la poise, qui est une unité CGS, peu importe. Ce qui est important de voir, c'est que 10 poises, c'est l'huile d'olive à 20 degrés, donc ça donne une idée un peu de la viscosité de ces liquides. Et on repère ces viscosités en échelle logarithmique. Et on décrit, en général, tous les verres. On décrit des domaines de température caractéristiques qui vont être liés au travail du verre ou à sa fusion ou à son moulage ou à son étirage grâce à la viscosité. Et donc pour chaque type de verre, on va définir les températures, donc de ce qu'on appelle le strain pot, température de tension, température de recuisson, et ainsi de suite, avec des valeurs précises de la viscosité. Donc contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure où je dis on a le domaine de température de transition vitreuse, en fait, arbitrairement, on a défini la température TG de transition vitreuse en disant que la viscosité en échelle log était de 13,3. Voilà, c'est la définition pour les verres et c'est une façon de repérer et surtout de positionner les différents verres entre eux pour après choisir le bon verre suivant l'application. Donc, ça, c'est la définition. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ces températures varient énormément selon le type de verre. Par exemple, ici, j'ai comparé la silice, un verre pseudo-calcique, donc qui est le verre à vitre usuel, et puis l'oxyde de bore. Et vous voyez que la TG peut varier de 1200 à 200 degrés dans ce cas-là, avec des températures de liquidus, qu'on appelle à tort température de fusion, qui, elle, varie de 1700 à 450. Et ce qui est important aussi, c'est que ces températures, par exemple, si on regarde ici la température de travail, ici, working point, donc avec une viscosité de 4, eh bien, en température, va correspondre, suivant les compositions, si on passe d'un borosilicate ou d'un pseudo-calcique à un aluminosilicate, va pouvoir varier de plusieurs centaines de degrés Celsius. Voilà, donc maintenant je vais venir aux constituants des verres d'oxyde. L'idée là, c'est de faire le lien entre le verre d'oxyde tel qu'il va être défini pour son application, et puis par la suite les matières premières qui vont être nécessaires pour arriver à ce verre. Donc là, c'est un diagramme de phase binaire, donc SiO2, Na2O. Et ce qui est important de réaliser, ce qui est souligné ici, c'est que par rapport à température de fusion de 1700 degrés pour la silice pure, on a un eutectique avec l'oxyde de sodium qui permet de gagner pratiquement 1000 degrés dans la température de liquéfaction, ce qui est très important et donc ce qui est en fait à l'origine de ce qu'on a appelé tout à l'heure les fondants, c'est-à-dire la capacité de fondre la silice avec d'autres oxydes qui viennent baisser la température de fusion. Donc ça, c'est un composé binaire. Quand on a un composé ternaire, c'est bien sûr beaucoup plus compliqué, et je ne vais pas commenter ce diagramme de phase. Et pour les verres réels, qui sont en général un mélange de 10 oxydes, évidemment, ce diagramme de phase est encore plus compliqué, et c'est pas toujours compris, d'ailleurs, suivant les applications. Voilà, donc tout ça pour dire, pour amener à la distinction qu'on fait dans les constituants des oxydes entre les oxydes formateurs, donc ceux qui vont former le réseau, je vous ai montré tout à l'heure le réseau de silice, on parle des réseaux d'oxyde de bore, de phosphate, de germanium, donc ceux-là vont former un réseau. Les modificateurs qui vont permettre de faire baisser la température, on a parlé de l'oxyde de sodium, il y en a d'autres, les alcalino terreux et ainsi de suite. Et puis des oxydes intermédiaires, comme l'alumine, qui est le meilleur exemple, qui ont des coordinances, dans ce cas-là, 4 ou 6. Et suivant le type de verre dans lequel ils vont être introduits, ils vont soit jouer le rôle de modificateur, soit jouer le rôle de formateur. Et c'est tout l'art de la composition verrière, de pouvoir jouer avec ces différents composants. Voilà, donc ça, c'est la classification des constituants des verres. Et là, bon, le temps passe, donc je vais aller relativement vite, mais on a certaines lignes directrices, on va dire, de l'utilisation de ces oxydes, en particulier sur les aspects fluidifiants de certains oxydes, donc pour travailler, pouvoir travailler le verre, et puis sur la durabilité avec l'alumine. Voilà, donc pour élaborer un verre, jusqu'à maintenant, on a parlé d'oxydes et de diagrammes de phase. En fait, pour élaborer un verre, il va falloir partir de matières premières qu'on trouve naturellement ou de façon synthétique. Et la première étape pour élaborer un verre, c'est bien sûr de savoir ce qu'on veut réaliser. Donc, je vais vous donner des exemples d'applications par la suite, mais en gros, c'est un cahier des charges du verre qu'on va vouloir fabriquer. Et une fois que ce cahier des charges est défini, il va falloir travailler sur les matières premières, c'est-à-dire comment apporter tous les éléments nécessaires à la fabrication de ce verre. Donc ça, c'est le choix des matières premières. Bon, il y en a qui sont classiques, comme la silice, la soude, au sens impropre du terme, la potasse. D'autres matières premières qu'on utilise de plus en plus, avec moins de CO2 ou du verre recyclé, le calcin de verre recyclé. Et bien sûr, tout un travail sur la purification de ces matières premières et la façon dont on prépare le mélange, donc la granulométrie des oxydes et le mélange qui sera constitué par la suite. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle la fusion, même si c'est un terme impropre, ce n'est pas une fusion au sens transition de phase, mais ce qu'on appelle la fusion. Et avec le challenge important qui est que si on veut avoir un verre homogène et sans défaut, idéalement, il suffit de chauffer très haut et de chauffer très longtemps, et on aura un verre complètement homogène où tout sera fondu et toutes les bulles auront disparu. Le problème, c'est que le très chaud, c'est très chaud, et le très longtemps, c'est très longtemps, et donc à la fin, le coût est vraiment prohibitif. Donc on est obligé de travailler sur à la fois ce qu'on appelle les affinants, donc une façon de se libérer des bulles qui vont venir, donc je ne l'ai pas dit, mais des bulles qui vont venir par exemple venir des carbonates, si on prend un carbonate de sodium, quand il va fondre dans le verre, il va former du CO2 qu'il va falloir évacuer, et donc il va falloir aider ces bulles de CO2 à sortir du bain de verre pour avoir un verre clair par la suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les affinants, donc c'est d'autres constituants qu'on rentre dans le verre pour sa qualité optique. Et puis, bien sûr, pour homogénéiser et pour avoir une optimisation énergétique des fours, eh bien, toute la conception des fours et aussi le travail sur la combustion qui est important pour arriver à avoir un procédé qui soit énergétiquement acceptable. Et puis, le dernier point, c'est le formage. Donc, non seulement le refroidissement rapide, mais la mise en forme. Donc, voilà. Donc, en gros, ce sont les 4 étapes. Et j'ai une slide par la suite pour vous illustrer. On ne va pas pouvoir aller très loin, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais pour vous illustrer un peu la difficulté et le manque de compréhension qu'on a sur les mécanismes réactionnels. Donc, encore une fois, j'ai montré certains diagrammes de phase qui sont bien connus sur les verres, qui peuvent être binaires, ternaires ou autres, quaternaires, où là, on a aux extrémités du diagramme de phase des oxydes. La réalité, c'est que... donc ça, c'est l'équilibre thermodynamique. La réalité, c'est qu'on parle de matières premières qui sont des carbonates, très souvent, même s'il y a silice et carbonate. Et donc, il va falloir comprendre comment est-ce que la cinétique, justement, intervient pour arriver à la fabrication d'un verre. Donc, c'est ce qui va être illustré ici. On va prendre un système très simple, un système binaire, silice, carbonate de sodium. Et comme ça a été dit par Jean-Marc tout à l'heure, même si les réactions sont favorisées thermodynamiquement, la cinétique, finalement, va empêcher, peut limiter la fabrication de ces verres. Et donc, ce que je vais vous montrer là, ce sont des résultats récents de tomographie X tridimensionnelle obtenue au synchrotron par l'équipe du laboratoire mixte à Saint-Gobain, CNRS, avec cette publication. Il y en a d'autres qui sont en préparation sur l'utilisation de ces techniques pour la caractérisation ou la compréhension des mécanismes réactionnels. Donc aujourd'hui, on distingue trois types de réactions suivant les domaines de température pour un système aussi simple que système binaire. Hein, j'insiste, ce n'est vraiment pas un verre industriel, c'est un système binaire. Donc on a des réactions en phase solide, éventuellement une décomposition de carbonate qui va donner du sodium gazeux qui va pouvoir réagir avec la silice, ou bien une fusion du carbonate de sodium et un mouillage réactif sur les grains de silice. Donc, je vais juste illustrer le premier type de réaction, qui est une réaction en phase solide, qui est obtenue à basse température, le mouillage obtenu à plus haute température. Donc là, avant de faire tourner le film, donc je vais vous décrire les éléments qui sont représentés. Donc, c'est un cliché, donc, comme j'ai dit, tomographie X 3D. Les dimensions ne sont pas reprises ici, mais les grains, typiquement, font quelques centaines de microns. Hein, c'est typiquement la granulométrie qu'on utilise. Alors, ça peut être plus, un peu moins, mais c'est l'ordre de grandeur. Et ici, vous avez la silice et ici, le carbonate de sodium. Donc, ça vous représente un peu la granulométrie, le mélange tel qu'on peut l'utiliser dans un four verrier, encore une fois, sur l'exemple d'un système binaire, donc très simple. Alors, si j'arrive à faire tourner le film, j'espère. Donc, ce que vous allez voir, c'est qu'il va y avoir donc, un mécanisme de réaction en phase solide et donc le grain de... Voilà, donc ça c'est 800 degrés, donc le grain de carbonate de sodium. Oups, je ne suis pas doué. Ah, je vais le refaire. Bon, je ne vais pas essayer, je vais vous laisser comprendre parce que. Voilà, donc le grain de carbonate de sodium qui est en gris ici va finalement réagir avec la silice. Et venir faire fondre la silice, vous voyez donc le contraste qui change sur les grains de silice. Les grains de silice là, qui sont à gauche restent blancs, ne réagissent pas à cette température-là. Ils ne peuvent pas réagir avec le carbonate de sodium parce qu'ils ne sont pas en contact intime. Maintenant, je peux utiliser mon truc. Donc, ce grain de silice qui est là n'a pas réagi parce qu'il n'est pas en contact solide avec un grain de carbonate de sodium. Par contre, celui-ci a commencé à réagir. On peut bien sûr le laisser. La réaction se continuait, elle réagit avec le grain. Alors, je ne sais pas si la qualité est suffisante, mais on peut voir en fait, en tout cas, une trace de la deuxième type de réaction qui est au bord de, si je ne fais pas de bêtises. Alors, si, j'en fais. Ah. Bon, je vais accélérer peut-être. Mais ce qu'on peut voir, mais la qualité de l'image est peut-être pas assez bonne à l'écran, c'est qu'autour du grain de silice, on va commencer à voir des petites flamèches qui sont en fait une trace du gaz sodium qui vient réagir avec la silice. Voilà, donc c'était juste un exemple. Les travaux continuent avec des systèmes ternaires. Encore une fois, l'idée, c'est in fine de comprendre les mécanismes réactionnels qui sont bien sûr déterminants pour la cinétique et pour l'obtention des verres ternaires dans ce cas-là. Voilà, juste un mot. Donc, maintenant, je vais passer à l'illustration un peu des différents verres qu'on peut obtenir avec les silicates, les verres d'oxyde. Un mot rapide sur ce qu'on appelle le redox, qui lui aussi va dépendre des conditions opératoires, donc de l'environnement, de façon générale, de la pression partielle d'oxygène dans le bain de verre. Ça peut dépendre d'autres réactions d'oxyde de réduction. Ici, c'est un exemple pour illustrer ce qu'on veut dire par redox, qui est une même composition verrière, mais avec des états de redox différents. Donc, le redox étant défini par le taux de fer de plus sur le taux de fer total. Vous avez des taux de redox qui sont différents, c'est un peu exagéré, mais c'est volontaire, pour montrer la différence d'absorption, qui, là, bien sûr, dans ce cas, vient du Fe2+, avec une même composition verrière. D'où l'importance de bien maîtriser les procédés de fusion pour contrôler l'état du verre. Donc, quelques exemples. Les verres colorés, donc les métaux de transition, vous venez de voir un exemple avec le fer. Juste un mot un peu plus... détailler un peu plus le dernier exemple, qui est l'utilisation des résonances plasmon et des nanoparticules. Donc, les résonances plasmon dans les nanoparticules métalliques correspondent à des mouvements d'ensemble, des mouvements collectifs des électrons. On peut les retrouver aussi à la surface des métaux, mais dans le cas des nanomatériaux, ils sont dans le nanoparticule dans son ensemble, qui donnent des pics d'absorption assez importants. dans des domaines de longueur d'onde qui correspondent, si on choisit bien les métaux et les dimensions, au visible. Et donc là, il y a un exemple qui est un exemple d'un verre du 4e siècle, qui est cette coupe de Lycurgus, là, où, suivant le type d'éclairage, c'est dû effectivement à l'absorption de ces nanoparticules, on a deux couleurs différentes, suivant que l'éclairage est en réflectif ou en transmission. Alors, plus récemment, on a compris, bien sûr, ce qui était à l'origine de ces couleurs, et ça a été maîtrisé, par exemple, dans le cas des verres, ce qu'on appelle les verres rubis, où on crée des nanoparticules d'or dans des verres. Donc on a une première étape, une étape de fusion des verres qui contiennent des précurseurs d'or, et après une étape de recuisson pour venir, une étape de germination-croissance, pour venir nucléer ces nanoparticules. Évidemment, le challenge, c'est de les obtenir à la bonne dimension pour qu'ils aient une certaine uniformité de couleur, bien que dans ce cas-là... Dans ce cas-là, on a un gradient effectivement, qui est lié au recuit sur ces nanoparticules. Bon, je vais passer vite sur le conditionnement. Juste un exemple quand même sur ce type de verre. Comme vous en doutez, la composition verrière doit être choisie avec des critères de coût. C'est un produit qui est relativement banal, tous les verres pour le conditionnement, les verres de bouteille ou de pot. Et donc le coût est très important. Et donc, pour réduire le coût, l'une des possibilités, c'est de réduire la soude, parce que c'est ce qui coûte le plus cher, enfin, pas le plus cher, mais un des éléments le plus cher dans la composition verrière. Le problème, c'est que si on réduit trop le taux de soude, la flexibilité du verre, donc sa capacité à être formé en verre creux, donc de pouvoir injecter, de souffler le verre pour le former, est plus difficile. Et donc, il y a un compromis qui s'établit sur le taux de sodium qu'on doit avoir dans ces compositions verrières, de façon à pouvoir à la fois avoir un coût relativement faible, mais un formage en bouteille qui soit possible, ce qu'on appelle la souplesse du verre. Bon, il y a d'autres critères, bien sûr, qui conduisent à la composition. Un exemple que j'ai choisi, c'est les fibres de verre pour l'isolation, ce qu'on appelle la laine de verre. Donc, en deux mots, le procédé consiste à faire verser du verre fondu dans ce qu'on appelle une assiette, donc qui tourne ici, qu'on ne voit pas les détails, mais dans cette assiette, il y a un très grand nombre de petits trous qui sont formés, et donc le verre est éjecté à travers ces trous pour former les fibres d'isolation qui après sont formées en matelas, qui doivent avoir certaines propriétés mécaniques. Et donc les critères, je les ai listés ici, je n'ai pas le temps de les commenter en détail, mais donc il y a certains critères de choix des constituants du verre qui vont être définis par la résistance mécanique, la biosolubilité des fibres, puisqu'elles sont manipulées en grande quantité, et puis l'absorption dans l'infrarouge qui vient de l'oxyde de bore, puisque ce sont des fibres d'isolation. Si on peut, grâce au verre, augmenter l'absorption dans le domaine infrarouge de 10 microns, ce qu'on appelle l'infrarouge thermique, eh bien c'est d'autant mieux. Voilà, je passe sur les fibres de renforcement, parce que je n'aurai pas le temps de tout couvrir. Je vais juste passer un peu de temps sur ce qu'on appelle les borosilicates, donc les verres pour écran LCD. Donc, si vous ne savez pas comment est construit un écran LCD, c'est en gros, pour faire simple, un aquarium entre deux verres dans lequel on va mettre les cristaux liquides. Et autour de cet aquarium, sur le verre, il y aura toute l'électronique qui est nécessaire pour adresser les pixels, donc ce qu'on appelle les TFT, les thin film transistors, mais d'autres éléments électroniques qui vont permettre de piloter l'écran LCD que vous connaissez tous. Donc, ce qui est important de bien noter, c'est que ce verre, qui sera donc le verre LCD, va subir un certain nombre d'étapes qui va être la fabrication de tous les composants électroniques qui vont suivre, qui vont être sur le verre. Et donc, il est important d'avoir d'abord une stabilité dimensionnelle, puisqu'on fait des écrans sur des grands panneaux de plusieurs dizaines de mètres carrés, enfin 10 mètres carrés. Et donc, il va y avoir des critères d'expansion thermique, de façon à ce que pendant le procédé de fabrication de ces transistors, par exemple, la dilatation du verre corresponde à la dilatation des couches qu'on va venir déposer, de façon à ce que, parce que ce sont des procédés qui sont, pour certaines étapes, sont en température, de façon à ce que quand le verre se refroidit, eh bien, les composants électroniques suivent bien le verre pour qu'il y ait évidemment une bonne, qu'il n'y ait pas de défaut qui soit créé au refroidissement. C'est le cas aussi on essaie aussi d'éviter on évite les alcalins, Le sodium est connu pour être un contaminant des composants électroniques, donc il faut éviter l'alcalin. Et puis, il y a un certain nombre de compatibilité process sur des gravures chimiques. Et tout ça a conduit à choisir ce qu'on appelle les borosilicates, donc qui sont des verres sans alcalin, bor, silice et d'autres oxydes, mais sans alcalin, qui sont fabriqués par un procédé qu'on appelle un procédé de fusion draw, qui est ici. Et donc, l'idée, enfin, c'est un schéma très simpliste, mais l'idée, c'est de verser le verre sur un réfractaire, et le verre va déborder de part et d'autre du réfractaire et se regrouper ensuite sous le réfractaire. Et l'intérêt, c'est que le verre qui va servir de substrat ici, dans le cas des écrans LCD, n'a jamais été contaminé par le contact avec un réfractaire. Donc c'est une surface vraiment vierge de verre sur laquelle on va pouvoir par la suite fabriquer toute l'électronique qui est nécessaire pour la fabrication des écrans LCD. Le renforcement chimique, donc c'est, sont des verres qui ont une résistance mécanique de surface qui est très importante et qui sont utilisés à la fois pour des applications qui sont très exigeantes, comme les pare-brises. Bon, ici, c'est un pare-brise de Concorde, mais ça peut être des pare-brises plus généralement dans l'aéronautique, mais pas seulement. Mais aussi, de nos jours, qui sont utilisés pour ce qu'on appelle les cover glass. Donc, tout ce que vous connaissez, smartphone, tablette, et ainsi de suite, ont comme dernier verre, donc il y a l'écran LCD dont j'ai parlé tout à l'heure, mais sur le dernier verre, ce qu'on appelle un cover glass, donc un verre de couverture, qui lui est trempé chimique pour avoir une résistance mécanique importante. Et on atteint, donc, bon, je ne vais pas commenter en détail la slide ici, mais on atteint des contraintes en compression. Alors, je ne l'ai pas dit, excusez-moi. Mais, donc on fait un échange ionique avec le verre, c'est-à-dire qu'on trempe un verre, typiquement un verre au sodium, on va le tremper dans un bain de nitrate de potassium, et il va y avoir un échange chimique entre le potassium et le sodium. Et comme le potassium est plus, un rayon ionique plus important que le sodium, il va mettre le verre en compression là où il est venu s'échanger. Et c'est cette compression qui va donner plus, une meilleure résistance mécanique au vitrage. Et on atteint on peut aller jusqu'à 1 gigapascal, quelques centaines de mégapascal, alors qu'un verre standard en flexion a une résistance typiquement de 50 mégapascal. Donc on a un ordre de grandeur en résistance mécanique du verre. Et donc là, j'en parle pas ici, mais les compositions chimiques de ces verres-là ont été optimisées pour faciliter l'échange chimique et faciliter donc la résistance mécanique des verres. Bon, je vais prendre un dernier exemple rapidement, qui est sur les vitrocéramiques. Il y a des phases, certaines phases comme la bêta-eucryptite, LiAlSiO4, qui ont le bon goût, donc c'est des phases cristallines, qui ont le bon goût d'avoir des variations en température du volume élémentaire de la maille qui est quasi nulle. Donc ce sont il y a une compensation entre la dilatation selon l'axe A et une compression selon l'axe complémentaire qui fait que la maille en volume a un volume qui ne varie pas en température. Alors en fait, on utilise cette particularité avec des compositions verrières qui sont ici mentionnées, donc lithium, aluminium, silicium. Et donc on fabrique le verre, et c'est ça qui est important peut-être à illustrer ici. On fabrique le verre par un procédé de laminage, donc on fond ce verre ici, on fabrique ce verre, on fabrique ce qu'on appelle le green glass, donc le verre nu, le verre vierge, et on va venir donc, découper la forme définitive, faire la sérigraphie. Et après, on va avoir une étape de céramisation, c'est-à-dire qu'on a un mécanisme de nucléation-croissance dans le verre. À partir de la phase vitreuse, on va faire croître les cristaux qui ont une variation en volume, variation de température en volume, variation de volume en température qui est nulle. Et donc, à la fin, la vitrocéramique aura une dilatation en température quasi nulle. Et c'est ce qui est montré ici, donc le coefficient de dilatation thermique. Ça, c'est un verre plat traditionnel, donc le verre à vitre, et ça, c'est les vitrocéramiques tels qu'on les obtient aujourd'hui qui permettent de résister évidemment aux chocs thermiques de façon très importante. Voilà, donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les plaques vitrocéramiques, et j'ai pris un dernier exemple d'utilisation de ces vitrocéramiques sur des miroirs pour télescopes, qui sont des miroirs pour les télescopes VLT, là, qui ont besoin, pour lesquels c'est important qu'il y ait des dilatations thermiques quasi nulles, de façon à avoir une observation qui soit stable. Voilà, donc j'ai listé là d'autres verres. Encore une fois, c'est impossible de couvrir l'ensemble des verres d'oxyde. Pour chacun de ces verres qui sont utilisés, qui sont listés là, eh bien, il y a des compositions verrières qui sont très différentes dans certains cas et des procédés de fabrication qui sont très différents. Donc finalement, on a un triptyque, enfin, on a trois dimensions qui sont l'application, la composition verrière et le procédé de fabrication. Et très souvent, ils vont de pair. C'est rare qu'un procédé conduise à... c'est impossible qu'un procédé conduise à la fabrication de tous ces verres. Voilà, donc je ne vais pas détailler bien sûr ces exemples-là. Le dernier que j'avais illustré, c'est, que j'avais mentionné, ce sont les vitrages. Donc les vitrages bâtiments, automobiles ou autres. Et donc je vais, dans la dernière partie, le quart d'heure qui me reste, illustrer ces applications vitrages par les vitrages qu'on appelle intelligents à la fin, mais les vitrages fonctionnels par fonctionnalisation de surface. Alors, comme l'a rappelé Jean-Marie tout à l'heure, il y a énormément de procédés de fonctionnalisation de surface. Comme le temps est limité, je vais me limiter à celui qui est largement utilisé dans l'industrie verrière, qui est le procédé magnétron, qui est, comme l'a montré Jean-Marie, qui est un procédé très versatile et qui permet surtout, pour les applications vitrage, d'atteindre des grandes dimensions, comme je vais vous le montrer. Voilà, donc la pulvérisation de magnétron, Jean-Marie en a parlé, donc on vient bombarder une cible du matériau à déposer si on veut déposer directement l'élément, ou bien on peut faire de la pulvérisation réactive, c'est-à-dire que dans le plasma, on introduit par exemple de l'oxygène, et à travers une cible, mettons, de silicium, on va pouvoir déposer de la silice. Voilà. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'à l'échelle industrielle, voilà ici ce qu'on appelle une ligne magnétron. Voilà ce qu'on appelle une ligne magnétron. Donc, ça vous donne des dimensions. Donc, la largeur du verre, c'est sur 3 mètres et la longueur totale de la ligne fait une centaine de mètres. Et ici, vous avez un schéma qui vous montre effectivement ce qui se passe à chaque étape magnétron. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un magnétron qui est là, qui va déposer un type de matériau. Et le verre va passer sous ce magnétron. Donc il va recevoir une certaine couche d'un certain matériau avec une certaine épaisseur, et il va passer ensuite sous un autre magnétron pour avoir un autre matériau avec une autre épaisseur, et ainsi de suite. Et donc on construit ce qu'on appelle des empilements de couches, donc c'est plus qu'une simple couche fonctionnelle, ce sont des empilements qui vont apporter la fonctionnalité au vitrage. Voilà, donc l'exemple le plus simple, c'est l'anti-reflet, que vous connaissez probablement tous. Donc ce qu'on apprend au lycée, c'est que pour faire un anti-reflet, il suffit, en tout cas une seule longueur d'onde, d'avoir une couche d'indice n qui va être intermédiaire, donc c'est la racine carrée des indices de l'air dans ce cas-là et du verre voilà, dans l'indice de la 23, et puis une épaisseur de lambda sur 4, donc typiquement 100 nanomètres. Le problème, c'est que les matériaux d'indice 1.23, c'est des fluorures, donc c'est très difficile à déposer, en tout cas à déposer durablement. Et puis, bien sûr, ça ne marche qu'à une seule longueur d'onde, et le résultat, c'est que si vous faites un anti-reflet avec une seule couche de ce type-là, même si vous y arrivez, le verre va être très coloré, et donc sera inacceptable pour un grand nombre d'applications. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, comme j'ai dit, des empilements, et ici, vous avez, par exemple, des taux, niveaux de réflexion pour des empilements avec 1 jusqu'à 4 couches, et ce qu'on voit, en fait, par exemple, sur 4 couches, c'est que la réflexion est en forme de U, c'est-à-dire qu'elle est pratiquement la même et très faible pour toutes les longueurs d'onde. Donc on va avoir un produit qui va être effectivement anti-reflet et neutre en couleur, puisqu'il n'y aura pas de variation suivant les longueurs d'onde. Alors ça, c'est la partie optique. Après, il y a la partie matériaux. Il faut choisir les matériaux pour pouvoir construire cet empilement, par exemple, de 4 couches. Et le choix de ces matériaux va dépendre, bien sûr, de ce qui est disponible, mais aussi de ce qui sera, comment le verre sera transformé par la suite. Typiquement, si vous avez un verre qui sert de ce qu'on appelle un display, donc typiquement pour présenter des produits quand vous allez chez votre boucher par exemple, et bien ce verre va être bombé et donc le dépôt va être fait sur le verre plat et une fois que le dépôt anti-reflet sera fait sur le verre plat, on va venir bomber le verre et donc déformer à la fois le verre mais aussi l'empilement de couches. Et il est important que les matériaux qui sont choisis résistent bien sûr à cette transformation du verre. Et donc ça va conditionner quelque part le choix des matériaux pour, dans ce cas-là, la fonctionnalité anti-reflet. Je vais passer rapidement sur les verres auto-nettoyants. Donc, c'est là une simple couche de TiO2 dans la phase d'anatase qui est connue pour avoir des propriétés photocatalytique et d'hydrophilie photo-induite qui permet d'avoir un vitrage auto-nettoyant. Je vais passer un peu plus de temps sur le vitrage bâtiment et énergie. Donc pour faire simple, dans un bâtiment, suivant les situations, on va souhaiter soit conserver la chaleur à l'intérieur de l'habitat, soit au contraire éviter de chauffer inutilement l'habitacle, c'est une voiture, de chauffer la pièce par des apports solaires. Donc si vous êtes dans un pays froid, vous allez vouloir conserver l'énergie thermique à l'intérieur du bâtiment et profiter de ce qu'on appelle les apports solaires, c'est-à-dire l'infrarouge thermique du soleil qui va venir chauffer par effet de serre, qui va venir chauffer la pièce. Par contre, dans un pays chaud, vous voudrez au contraire extraire la chaleur du bâtiment qui est trop importante et rejeter l'infrarouge solaire qui viendrait chauffer la pièce. Donc les domaines de longueur d'onde sont différents. Ce qu'on appelle l'infrarouge thermique, c'est l'infrarouge émis par une pièce, c'est typiquement à 20 degrés, donc c'est une longueur d'onde de l'ordre de 10 microns. Et l'infrarouge qu'on appelle solaire est à une longueur d'onde de 1 micron. Donc vous allez avoir ce bilan entre les pertes thermiques et les apports solaires qu'il va falloir faire suivant la situation. Donc il y a une grande variété de produits qui sont développés pour répondre à différentes situations. Et là, je vais juste commenter les deux cas extrêmes, donc ce qu'on appelle le bas émissif, donc le souhait de conserver l'infrarouge thermique à l'intérieur d'une pièce, et puis le contrôle solaire qui est le souhait de rejeter l'infrarouge du soleil. Voilà, donc ce qu'on appelle les couches bas émissives sont des couches qui émettent peu l'infrarouge. Donc, je n'ai pas de diagramme ici, mais si vous avez un bâtiment avec une fenêtre, évidemment, les pertes thermiques vont être faites par rayonnement, principalement, enfin pour un double vitrage. Et donc, vous voulez avoir en surface du verre une couche qui émette peu vers l'extérieur par rapport à ce qu'on a. Et ça, c'est assuré, par exemple, par des métaux. C'est relativement bien connu. Ce qu'il faut pour que ces métaux soient bas émissifs, c'est qu'ils soient bien cristallisés. Et donc, on construit un empilement qui est à partir de ZnO, de dioxyde de zinc, parce qu'à partir de ZnO, on va avoir une épitaxie entre l'argent et le ZnO. Épitaxie dont a parlé Jean-Marie tout à l'heure, qui va permettre d'avoir un argent très bien cristallisé et bas émissif. Donc ça, c'est la partie thermique, on va dire, de l'empilement. Après, il y a la partie optique, c'est-à-dire qu'on veut effectivement conserver l'infrarouge thermique dans la pièce, mais on veut que le vitrage soit avant tout un vitrage, c'est-à-dire que la transmission lumineuse soit importante. Et donc pour faire ça, on va faire un empilement avec des diélectriques et on va s'arranger pour qu'il y ait une interférence constructive, on va dire, dans le visible, de façon à avoir une transmission lumineuse qui soit importante. Donc ici, j'ai représenté à gauche les différentes étapes de l'empilement et à droite, si j'arrive, le taux de réflexion, en tout cas au démarrage, du vitrage. Et je vous décris de façon très schématique la contribution des différentes couches qui vont faire l'empilement bas émissif par la suite. Donc on met d'abord un diélectrique, et donc par rapport à ce qu'on veut faire, qui est de réfléchir dans l'infrarouge finalement, donc de réfléchir au-delà de 2 microns, en fait on ne réalise pas ce qu'on veut, on n'a pas l'impression que ce n'est pas le bon choix, puisqu'on a quelque chose qui réfléchit au contraire dans le visible et qui va être très fortement coloré, puisqu'il varie en longueur d'onde de façon importante. Alors, sur cette étape diélectrique, donc cet élément diélectrique, on a mis une couche de ZnO qui va servir à la cristallisation, et ensuite on va venir déposer l'argent. Donc l'argent va donner cette réflexion dans l'infrarouge, qui est ici, donc une réflexion importante dans l'infrarouge, mais on conserve toujours une réflexion importante dans le domaine visible, qui est gênante, surtout dans les pays froids, on voit beaucoup de luminosité qui viennent par la fenêtre. Et en fait, c'est la dernière couche de diélectrique qui va, par interférence, faire baisser ce qu'on appelle l'antireflétage, qui va faire baisser la réflexion totale du vitrage à des niveaux très faibles, de l'ordre de 9-10%, dans le domaine visible, tout en conservant une réflexion importante dans l'infrarouge. Donc on a construit un empilement qui permet de réfléchir l'infrarouge, donc d'être bas émissif dans l'infrarouge thermique, mais qui va apporter une très bonne transmission lumineuse, donc des apports solaires aussi importants, puisque autour de 1 micron, il y a quand même encore une bonne transmission, et donc des apports solaires importants, ce qui est souhaité dans les pays froids. Voilà, pour les contrôles solaires, j'irai assez vite. L'objectif, c'est donc de rejeter l'infrarouge solaire à 1 micron. Donc on a, si le soleil est ici, donc pour un double vitrage, on a sur la face qu'on appelle la face 2, donc la première face, face interne du double vitrage, on va mettre une couche qui, soit par absorption, soit par réflexion, va rejeter l'infrarouge solaire. Alors, les produits par absorption ne sont pas très performants. Pourquoi ? Parce que cette couche absorbe, mais en fait, une fois qu'elle est absorbée, elle chauffe, elle remet dans toutes les directions. Donc, une partie de ce qu'elle a absorbé va être réémise sous forme thermique vers l'intérieur de l'habitat. Donc, ce sont des couches qui ne sont pas très efficaces. Et si on regarde la réflexion, on voit que d'abord, ce sont des couches absorbantes. Donc, dans le visible, elles ont une contribution. Les vitrages sont moins bons en transmission lumineuse. Et la réflexion de l'infrarouge n'est pas très bonne. Donc, c'était les premiers produits qui ont été fabriqués pour le contrôle solaire. Les produits modernes d'aujourd'hui sont des produits à base de couches d'argent qui vont être soit deux, soit trois, voire quatre couches. Ici, vous avez une représentation de cet empilement. Donc, on voit les deux couches d'argent qui sont ici, puis les diélectriques de part et d'autre. Donc, ce qui est important, pourquoi est-ce qu'on utilise deux couches d'argent ? C'est parce qu'on va avoir une interférence de type Fabry-Perot entre ces deux couches, et ça va contribuer à avoir cette sélection un peu en U, qui est plus ou moins prononcée suivant le nombre de couches, mais qui permet d'avoir une bonne transmission dans le visible pour avoir un vitrage clair, mais une très bonne réflexion dans l'infrarouge. Voilà, le dernier exemple que je vais prendre, c'est les vitrages électrochromes. Donc là aussi, il y a différentes technologies. J'ai choisi de vous présenter la technologie couche mince, qui est celle qu'on développe à Saint-Gobain. Donc le principe de base, c'est d'avoir une pile, quelque part, mais qui fonctionne en inverse. C'est-à-dire qu'on va créer un empilement de couches, donc ce sont toujours des couches dans ce cas-là, avec une couche électrochrome qui est de l'oxyde de tungstène, qui est connue depuis au moins un siècle, et qui est connue pour le fait que si on insère des protons ou des ions lithium dans l'oxyde de tungstène, qui est clair au départ, on obtient le composé donc, inséré, qui est absorbant, qui est bleu. Et donc l'idée, c'est d'avoir de façon contrôlée une insertion du lithium dans le composé électrochrome qui est l'oxyde de tungstène, ou bien dans une contre-électrode qui va servir de réservoir à lithium dans l'état clair. Donc, on a effectivement cinq couches caractéristiques, il y en a plus dans la réalité, mais cinq couches fonctionnelles, qui sont des couches transparentes conductrices, c'est un vitrage, donc il faut que ce soit des couches qui soient à la fois conductrices mais transparentes, donc conductrices électroniques et transparentes, la couche fonctionnelle oxyde de tungstène, la couche réservoir, donc la contre-électrode réservoir de lithium dans ce cas-là, et puis un conducteur ionique qui va séparer les deux et bien sûr éviter le transfert électronique direct. Voilà. Donc, je ne l'ai pas commenté tout à l'heure quand j'ai présenté l'outil industriel. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que ça, c'est le principe du device, mais que ces couches qui font pour certaines quelques nanomètres ou quelques dizaines de nanomètres sont déposées sur des verres qui font 3 mètres de large. Et donc, il faut arriver à contrôler ces épaisseurs sur des dimensions très importantes. Et donc, pour finir, voilà un exemple de vitrage électrochrome. Ici, à l'état coloré, et ici, à l'état... décoloré. L'intérêt, évidemment, c'est non seulement de contrôler le confort visuel, mais aussi la thermique, puisque quand le verre est bleu, il a une absorption dans l'infrarouge qui est importante. Donc finalement, on a une façon contrôlée de passer d'un vitrage contrôle solaire à un vitrage qui donne des apports solaires, si on le souhaite, dans l'habitat. Voilà, je m'arrêterai ici, juste avec cette slide, pour dire que comme je l'avais dit en introduction, le temps étant très limité, c'est impossible de tout couvrir. Au niveau de la fonctionnalisation de surface, j'ai essentiellement parlé des couches minces. Il y a des couches minces magnétrons, mais il y a aussi des couches minces par voie liquide, par sol-gel, d'autres procédés dont a parlé Jean-Marie. Il y a aussi des procédés de texturation qui apportent des nouvelles fonctionnalités au vitrage, qui ne sont pas développées à l'échelle industrielle aujourd'hui, mais qui sont des voies de recherche pour ces vitrages. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'ai donné quelques références ici qui peuvent être intéressantes pour... Les quatre premières à partir pour l'histoire du verre et les deux autres qui sont des références sur la transition vitreuse et le verre en général. Voilà, merci pour votre attention.